It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bon, on va démarrer cette émission justement en parlant de l'OM, de Pablo Longoria, d'un Marseille toujours aussi frénétique sur le marché des transferts. Hein. Merlin, Faris Moubagna, Garcia et Jean Onana sont arrivés. Lodi Vitinha et François-Régis Mouguet sont partis. Il y a aussi Malinowski.
Ouais.
Ça compte dans le prêt de Vitinha qui sont partis.
Dans les montages.
Après, c'est placé plein de choses cette semaine. L'équipe nous a appris qu'il voulait dégager à coup de pied aux fesses Jonathan Clauss. Maxime, ce mercato de l'OM, déjà, tu étais énervé contre Pablo Longoria, ça fait environ 2 ans. Mais là, j'ai l'impression que ce mercato, pour toi, c'était celui de trop pour Pablito.
Non, mais on est sur un mercato de déclassement encore. Et j'ai eu un peu peur parce que c'est parti vraiment très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements en début. Et je me suis dit, il va finir le mercato à 7 ou 8 mouvements. Pour un peu rattraper l'été ou rattraper notamment Vitinha qui a fini par partir cette semaine. Quand on fera le bilan des mercatos de Longoria, on verra que nos confrères d'RMC ont calculé qu'il y aurait eu à peu près 170 mouvements depuis qu'il est à la tête du club. 170 mouvements, imaginez. Alors évidemment, ça compte les retours de prêt, etc. Mais il n'empêche que ce sont des mouvements. C'est une frénésie absolue qui était justifiée tant que ça marchait, c'est-à-dire jusqu'à l'été précédent, en disant mais oui, mais de toute façon, il y a besoin, un club, il y a besoin de renouveler 50% de l'effectif, ce qui est une connerie, parce que les équipes qui gagnent, en général, il y a de la continuité. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On peut essayer de réinventer le football comme on veut. Ça ne change pas. Je suis embêté parce que c'est un mercato, encore une fois, de rattrapage en vrai. C'est-à-dire que Lodi, c'est le bon exemple. Il arrive cet été pour 13 millions, je crois.
Ouais.
En gros, il a fait 4 mois. Il est reparti en Arabie Saoudite. Enfin, il est parti en Arabie Saoudite. On avait eu un peu pareil avec Luis Suarez l'année dernière.
Là, c'est une caricature.
Qui avait fait
Lodi,
2 mois.
C'est oui, une caricature.
Oui, mais on a eu la même avec Luis Suarez. C'est-à-dire que le type arrive, au bout de 2 mois, on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire. Alors, à un moment, cette frénésie. Et Lodi, là où il est un contre-exemple, c'est que l'OM se sera fait un peu d'argent, n'en aura pas perdu sur lui. Sauf que si vous regardez la balance du mercato depuis l'arrivée de Longoria, elle est évidemment déficitaire parce que, en fait, c'est un mercato normalement qui est censé avoir, qui a deux raisons d'être. Un, faire progresser l'OM, le faire aller sur le podium régulièrement et espérer jouer avec des champions, et au moins faire de la revente et de la valorisation de joueurs. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne valorise rien du tout. Et on a toujours l'impression que les joueurs qui partent, sont ceux qui devraient rester. Je pense notamment, pour ne pas citer, à un Matteo Guendouzi qui est parti à la Lazio. Mmh. Moi, je me demande encore pourquoi ce type-là a été mis dehors, coup de pied aux fesses. Le cas Clauss, c'est un cas fantastique. C'est-à-dire que on apprend à 3 ou 4 jours de la fin du mercato que l'OM essaye de vendre Jonathan Clauss.
Alors, j'ai pas compris.
La manière de faire. Alors déjà, il y a le fond. C'est-à-dire qu'en disant que, en gros, contre Monaco, il est sorti. On n'est pas sûr de sa blessure, il n'a pas serré les dents, donc c'est pas bien vu, et qu'il aurait déjà la tête à l'euro. Donc vous vendez un joueur qui a peut-être la plus grosse valeur marchande à l'OM en disant aux acheteurs potentiels « Non mais alors là, laissez tomber les gars, il va pas avoir la tête à votre club, il va avoir la tête à l'euro. » Vous êtes acheteur, vous dites « Ok, je veux bien l'acheter, mais je ne vais pas le payer au prix proposé ou ce que vous en voulez. » Et finalement, tout ça pour le laisser jouer. Donc ils ont pris aussi le risque potentiel de le flinguer. Parce que là, ils se disent, ils n'ont plus confiance en moi. Et là où c'est dur, c'est que dans les Marseillais qui faisaient un bon début de saison, il était là. Donc je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude sur le fond et sur la forme. Je trouve que c'est complètement raté. Et je pense, honnêtement, et dernière chose là-dessus, à un moment, je me suis dit, l'OM est en train de vendre tous ses bijoux de famille. Ça faisait un peu vente de joueurs avant de revendre le club. Alors je ne vais pas lancer ce fantasme-là parce que c'est un serpent de mer qui existe tout le temps. Mais en fait, on n'arrive pas bien à savoir où va l'OM et ce que veut l'OM et Longoria.
Mais surtout, c'est sportivement. C'est-à-dire que Clauss, c'est le bon exemple. C'est que tu vends Clauss, tu t'affaiblis sportivement. Tu le vends pas, tu t'affaiblis sportivement. Parce que là, mets-toi à la place de Clauss. Donc, tu as fait le job quand même.
Oui,
tu es peut-être le meilleur Marseillais, ou en tout cas le plus régulier depuis 1 an et demi, 2 ans. Franchement, tu es très, très bon. Et là, parce que, a priori, oui, sur une raison un peu fallacieuse. Et mettez-vous à la place de Gattuso, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un joueur qui tournait pas trop mal, même si ces derniers temps, c'était un tout petit peu moins bien. Mais là, comment tu le remets en route, Jonathan Clauss, sachant que Tessier, Benassia et Longoria ont tout fait pour le dégager avec un coup de pied aux fesses. C'est compliqué quand même pour Clauss sur ces 6 derniers mois. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça impacte le sportif. Et à quel moment Longoria regarde le sportif quand vous voyez la colonne des arrivées et des départs? Moi-même, Vitinha, je comprends pas. Honnêtement, Vitinha, je comprends. Ok, avec Maxime, on n'est pas forcément d'accord parce qu'effectivement, oui, il est maladroit. Oui, c'est un mec qui, effectivement, a raté beaucoup de choses. Oui, c'est un petit peu mis le vélodrome contre lui.
Ouais, et ça pourrait être pire.
Et ça pourrait être pire. Ouais. Mais enfin, bon, Vitinha, c'est quand même un jeune qui. Il est là depuis un an. Un an, ça fait pas deux, ça fait pas trois, il est là depuis un an. C'est un jeune qui avait jamais quitté le Portugal, il reste jeune. Moi, je pense qu'il fallait continuer à lui donner la chance. De toute façon, dans quelle mesure, quand t'es Vitinha, tu peux engranger de la confiance? C'est-à-dire que tu vois débarquer cet été des mecs en attaque, mais de partout. Tu vois que ça part, que t'étais dans un effectif hyper mouvant. Comment tu peux déjà créer des automatismes, avoir de la confiance parce que t'as jamais été installé en tant que titulaire? Donc, c'est hyper compliqué. Et puis là, on te dégage. Le Génois ne lèvera jamais l'option d'achat. Je crois qu'elle est à 24, 23 millions.
À part si
il marque 30 buts. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, tu vas revenir à Marseille. Dans quel état?
C'est de l'argent foutu en l'air.
C'est de l'argent foutu en l'air, sachant que c'est ton plus gros investissement de l'histoire. Il fallait construire autour de lui. Pourquoi vous ne construisez pas? Pourquoi Marseille ne construit pas autour de lui? Moi, je peux croire en Vitinha. En tout cas, j'ai rien qui me fait dire que c'est une pipe complète. Marseille s'est trompé absolument, puisque de toute façon, on lui a pas donné la chance qu'on doit donner à un joueur comme ça. Donc moi là, ça me pose un vrai problème. Quand tu regardes l'effectif de l'OM, il y a personne qui est là depuis plus de 3 ans, si ce n'est Rongier, me semble-t-il. Ouais. Donc de toute façon, comment tu veux construire, comment le sportif veut bâtir?
Le sentiment d'attachement à l'équipe aussi. On en parlera d'ailleurs avec Lyon après. C'est pareil. Comment tu t'attaches à une équipe avec des joueurs qui sont là une fois?
Tu parlais de Guendouzi. Guendouzi, Payet, Mandanda, pour moi, c'était les trois figures de l'OM.
Ah oui.
Ok. Elles ont toutes été virées sans ménagement. Aujourd'hui, quelles sont les figures de l'OM?
T'as Rongier et Gigot.
Et mais pour
et
moi, Rongier, tu peux avoir Vitinha d'une certaine façon aussi. Ouais. Parce que c'est un mec qui se donne, un mec qui. Voilà, un mec qui pour. Il faut se rappeler Mamadou Niang, sa première saison à l'OM, il fait crater. C'est catastrophique. Il faut se rappeler, je sais que la comparaison va te hérisser le poil.
Ah non,
mais
bah non,
Didier Deschamps, en première année, on l'appelle j'en peux plus.
Non, pas Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin.
Jean-Pierre Papin, pardon.
Non, mais justement, il reste pas le poil. Moi, j'ai souvent dit ici qu'il me faisait penser à Papin, première saison. Sauf que je pense qu'il y a plus de lacunes que Papin et qu'il n'arrivera jamais au niveau de Papin.
Voilà, mais toujours est-il que la première saison de Papin à l'OM, c'est catastrophique, il devient le plus grand joueur de l'histoire du club. Ce que je veux dire, c'est comment tu peux juger sur un an un mec que t'as chopé l'hiver dernier, un Portugais qui était jamais... Voilà, à un moment...
En fait, tu peux... Alors, moi, je donne toujours un an, donc je peux me dire à un moment, bon, ça va, ça fait un an qu'il est là. Mais le vrai problème, c'est de l'avoir acheté à ce prix-là, d'avoir dépensé autant. En fait, à un moment, on peut pas tout mettre sur le dos du joueur.
Mais si tu décides que c'est un investissement, limite, fais tout pour...
Mais qui a décidé de l'acheter et qui a vu dans ce joueur un type qui valait 32 millions? C'est peut-être là l'erreur. Parce que s'il arrive pour 10 millions l'année dernière ou 15 millions, c'est pas la même histoire. Oui. On dit que c'est un gros investissement. C'est des joueurs à 15 millions, l'OM, il y en a. Ouais. L'Audi, il est à 13 millions. On peut dire, bon, bah lui, il était cher pour ce que c'est. Voilà. Et le problème, il est là. Et pour en revenir à Longoria, c'est un moment, faut rendre des comptes. Qu'est-ce que pense Franck McCourt de la masse salariale de l'OM aujourd'hui? Qu'est-ce que pense Franck McCourt des dépenses de l'OM aujourd'hui? Enfin, à un moment, j'imagine que ça doit le titiller quand même de se dire, bon. On va où? Parce que moi, j'ai du mal. On ne peut pas tirer de plan sur la comète, mais j'ai quand même du mal à voir l'OM sur le podium. Il n'est jamais très loin. Mais à quel moment on va se dire, oui, l'OM peut revenir dans je dis bien les trois premiers, ce quatrième, ce sera encore le spectre du
barrage.
Du barrage. Et puis, si l'OM arrive au barrage, qu'est-ce qui va se passer encore?
Comme l'année dernière?
Et ça va être la même chose. Ouais. Est-ce que l'entraîneur sera encore là? Est-ce qu'encore un entraîneur va
partir? Il y aura 10 nouveaux joueurs qui seront arrivés.
Il y aura 10 nouveaux joueurs.
Juste une statistique intéressante, Maxime. Depuis le début de l'été, Marseille a fait plus de transferts ou de mouvements, comme tu dis, que marqué de points au classement.
Ouais.
Est-ce que ça dit plus que l'OM fait un début de saison pourri ou que c'est à cause des transferts? À mon avis, ces deux trucs se nourrissent. C'est-à-dire que tu as 32 transferts pour 29 points. Il y a un truc qui ne va pas. Je pense que j'en suis à penser que Longoria est trop déconnecté du sportif,
regardez
de ce qui se passe sur le terrain et de ce dont tu as besoin d'entraîner.
Regardez le banc de touche de l'OM contre Monaco la semaine dernière.
Après, il y a un petit peu de canne quand même, mais oui.
Mais oui, mais tu dois pas en arriver là. Et plus, ouais. on pourrait déborder sur la formation marseillaise.
Ouais.
À quel moment l'OM va avoir des joueurs? Là, il y avait Sparagna qui est revenu.
L'histoire est incroyable. Oui.
À quel moment l'OM va avoir une formation derrière qui va pousser, voilà. Et en fait, là, ils ont acheté. En plus, dans le mercato, ce qui est un peu illisible, c'est qu'ils ont acheté Onana pour tout de suite. Mumbagna pour quand, je ne sais pas, à quel moment, enfin, c'est bizarre. Sarr, il devait partir, essayer de le faire partir, finalement il reste. Enfin, on a l'impression que le plaisir est plus dans le mouvement que la finalité. Il faut faire du mouvement, voilà, tout simplement.
Il faut faire plus du mouvement que de marquer des points. Il y a un truc qui m'échappe. On est bon sur le même, Maxime, parce que tous les jours sur WhatsApp, Maxime m'envoie, il faut qu'on parle de Longoria. Il faut qu'on parle de Longoria. On a parlé de Longoria.
Longoria, ça a été très bien au début, voilà, et tout le monde est parti. Il a des idées, tout ça. Mais à un moment.
Mais alors la question.
Quoi? Bah oui, la réponse.
Est-ce que l'OM doit se séparer de Longoria?
Moi, j'y pense depuis le début, depuis déjà cet été. Moi, j'ai jamais été. Encore une fois, quand on a mis sur le dos des entraîneurs le fait qu'ils quittent le club. C'est pas normal que des entraîneurs quittent chaque année l'Olympique de Marseille alors qu'ils sont en situation de réussite. Voilà, ça n'existe pas, ça n'existait pas. Que la deuxième saison soit difficile parce que l'OM, c'est une chose, ok. Mais le problème, il faut se poser la question du pourquoi, du comment ils sont partis. Sampaoli a parlé d'ailleurs dans l'équipe il y a une semaine, je crois. On sent qu'à un moment, il faut plus d'ambition parce qu'ils savent que la deuxième saison va être plus dure. Mais si en plus, vous changez à chaque fois 60% de l'équipe type, bah, vous n'y arrivez pas. Regardez l'exemple avec Tudor Marcelino. On a changé les joueurs de Tudor pour les joueurs de Marcelino qui est parti après 5 journées. Et Gattuso se retrouve avec une équipe qui ne correspond pas à ce dont il avait besoin. Et tout ça pour revenir à une défense à 3 comme sous Tudor. Enfin, en gros, le problème, c'est qu'il y a à long terme, la ligne directrice n'existe pas. Et ça, la ligne directrice, c'est un président de la donnée.